Chapitre 64. La Bretagne. Une claque d'air frais et d'embrun qui vous transperçait jusqu'à l'os. Lucie avait tracé la route plein ouest. Elle avait vu le bleu du ciel virer au noir à mesure que son véhicule traversait ce morceau de France, enfoncé comme un bras titanesque dans la mer d'un côté et l'océan de l'autre. Elle venait de terminer une conversation téléphonique avec Jaya. À 22 heures, les jumeaux venaient de s'endormir, sans père ni mère pour leur lire une histoire. Lucie s'en voulait désormais, si loin de chez elle, seule dans la lande avec ses fringues de rechange. Mais elle y croyait. Elle devait récupérer l'adresse qui permettrait de remonter au dernier propriétaire de la demeure et connaître l'histoire de cette baraque. Fougères, Saint-Brieuc, Guingamp, un interminable enchaînement de kilomètres dans les lueurs blafardes des lampes de la N12, qui pesaient sur ses paupières, telles des briques. Lucie était venue chaque fois en coup de vent dans cette région pour des enquêtes sordides. Cette fois-là, ne dérogeait pas à la règle. Les lumières de Morlaix lui donnèrent un coup de fouet, mais les villes bretonnes, l'automne et le soir, filaient le cafard. Rue exsangue, au vent mauvais, façade de pierre hostile, et les flots d'encre où palpitaient de vagues reflets agonisants. Lucie abandonna la ville derrière elle et s'engagea sur la côte ouest de la baie. À la lumière du jour, l'endroit devait rayonner de beauté. Des eaux bleues outre-mer, des teintes de roches pastel, des voiliers somptueux. Mais à cette heure-là, seule s'ouvrait une bouche d'ogre prête à vous engloutir. Après une dizaine de kilomètres, la route se rétrécit et tourna vers la droite. Après 40 ec, les habitations se raréfièrent. Le relief se fit encore plus sauvage. La voie se résumait à un trait de bitume entre terre et roche. Cette partie de la côte suggérait une tête d'hippocampe et la voiture évoluait désormais au niveau de la trompe, s'élevant davantage par rapport au niveau de la mer. Lucie eut la boule au ventre quand elle discerna, jaillie du fond de la nuit vers le nord, la double palpitation des phares, ces deux brefs clins d'œil décalés d'une fraction de seconde qui l'orientaient comme le marin en mer. Elle suivit la route principale, et chaque fois qu'un chemin partait vers la droite, au plus près de la mer, elle s'y engageait. Alors, elle devinait des propriétés nichées telles des perles rares dans la végétation. Des résidences secondaires, vides et sans vie, confondues avec les ténèbres. Seul le faisceau des phares en révélait l'existence. Lucie les observait, sortait parfois du véhicule pour vérifier et reprenait le volant. Elle la découvrit au bout de 20 minutes, au détour d'un chemin d'environ 400 mètres, isolé, serré entre ses troènes, ses hortensias en pagaille, ses herbes folles. La maison de l'horreur. Une bretonne classique, avec toit d'ardoise, arête en pierre, façade claire, mordue par les tags et le lierre. Un portail branlant défendait l'accès à la propriété. Lucie eut beau chercher une adresse, un nom de rue, un numéro, elle fit chou blanc. Elle était quelque part sur la pointe de Penallan. Elle envoya un SMS à Charcot. Je l'ai trouvé, mais pas d'adresse. Vais me prendre une chambre d'hôtel et interroger les habitants de la pointe demain. Lucie coupa les phares, posa ses mains sur le volant et inspira. Peut-être devrait-elle faire ce qu'elle venait d'écrire. Juste s'installer dans une chambre d'hôtel, récupérer de son long trajet et attendre le lendemain pour poursuivre ses investigations. Mais depuis son départ, elle n'avait qu'une obsession. Pénétrer dans cette maison et sentir ses drames dans chaque couloir, chaque pierre. Il faisait noir, certes, mais l'obscurité serait un stimulant supplémentaire. Lucie avait tout prévu. Gants, lampe-torche, pulvérisateur de Blue Star piqué en douce parmi le matériel dans le séchoir de leur étage. Elle glissa son arme à l'arrière de son jean et s'engagea sur le terrain. Un vent d'ouest cinglant l'accueillit. Une morsure cruelle qui la poussa à remonter la fermeture de son anorak jusqu'au menton. Plus elle s'avançait, plus sa conviction qu'il ne s'agissait pas d'un squat choisi au hasard grandissait. Il fallait le vouloir pour venir se perdre dans ce coin paumé. Lucie sentait un lien profond, symbolique, entre la horde et les lieux. C'était entre ces murs qu'on avait sacrifié la mère porteuse de Lucas, c'était là que le punisseur avait sorti le foie de ses tripes. Son portable vibra dans sa poche. Réponse de Charcot. Elle pouvait l'appeler une fois installée à l'hôtel. Il devait être très occupé avec l'infiltration d'Audra et Nicolas à l'hydre. Tant mieux. Elle s'approcha de la façade, éclaira les planches clouées devant les fenêtres. Le tag, Braise 29, était toujours là. Porte avant fermée à clé. D'un pas vif, elle entama le tour de la maison quand elle perçut une silhouette à l'orée du jardin. À peine eut-elle le temps de cligner des yeux que l'ombre s'enfonçait dans les arbres. 10 secondes plus tard, un bruit de moteur résonna. « Un scooter !» songea Lucie. Elle accourut, mais il était trop tard. Un habitant de la pointe? Un squatteur? Ou la surveillait-on? Elle resta sur ses gardes et se dirigea vers l'arrière de la maison. La pulsation blanche des phares donnait l'impression d'un orage permanent bourré d'électricité et accroché à la côte bretonne comme un tentacule de pieuvre. L'air de la baie remontait, une vague odeur d'algues et de vases. Lucie ne découvrit aucun point d'accès. Alors, elle s'acharna sur les planches qui condamnaient une fenêtre à l'arrière. Elle utilisa le canon de son SIG en guise de pied de biche. Elle crut ne jamais y arriver, mais un premier craquement la remotiva, et au bout d'un quart d'heure, elle put glisser son corps menu à l'intérieur.